le lion, symbole d'art et latte, riche en signification. Le lion est un symbole fort de domination et de sagesse, mais pourrait avoir de multiples autres significations, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le lion est un emblème héraldique d'art et latte comme étant lié au blason arlésien. Le visiteur, curieux de découvrir cette riche cité, pourrait y voir aussi le lion de Némée, qu'Hercule, à l'origine légendaire de la création des Jeux Olympiques, aurait affronté. C'est en suivant les pas de ce héros sur la Villa Domitia, dite herculéenne, que nous, élèves latinistes et hellénistes du Collège Gassendi à Digne-les-Bains, nous vous accompagnons pour vous faire découvrir ici, dans l'ancienne cité dite d'Arélate, les ludis, c'est-à-dire les Jeux. Devinette, que signifie Ab Ira Leonis? Réponse, cette expression veut dire par la colère du lion. Cette devise, d'abord peu connue, fut adoptée ensuite en figurant dans le logotype de la ville en 2005.
Art et latte et les ludi romani, introduction aux jeux romains. Arles a une vocation de carrefour depuis l'Antiquité, favorisée par sa situation, placée au débouché du delta du Rhodanus, le Rhône. Elle devient très tôt une cité centrale d'échanges commerciaux par voie terrestre et fluviale. Déjà, les Grecs décidèrent de s'y implanter dès le 6e siècle avant Jésus-Christ. César y fonda en 46 avant Jésus-Christ une colonie de droit romain dotée d'un immense territoire et y installa les vétérans de la 6e Légion. La ville s'enrichit très vite de superbes monuments, forums, temples, mais aussi des lieux de spectacle et de jeux comme le théâtre, l'amphithéâtre et le cirque. Bien qu'une grande partie de la vie à Rome et dans les provinces comme Arélate ait tourné autour du négotium, le travail et les affaires, il y avait aussi du temps pour l'otium, les loisirs. Qu'il s'agisse de nager, de jouer à des jeux de société ou d'assister à des représentations théâtrales, des activités sportives, les formes de divertissement dont disposaient les Romains dans l'Antiquité n'étaient pas très différentes de celles qui existent aujourd'hui. Devinette, savez-vous comment jouer au jeu du Delta ? Pour y jouer, dessinez sur le sol un triangle avec des lignes parallèles à sa base à l'intérieur. Le jeu consiste à lancer une noix dans le triangle en essayant de lui faire passer autant de lignes que possible. Les joueurs remportent autant de noix que de lignes dépassées. La noix ne doit pas sortir du triangle en roulant ou en rebondissant.
Le théâtre, le monument. Les théâtres étaient, dans tout l'Empire romain, un des éléments marqueurs de la romanité. Le théâtre d'Arles est l'un des premiers théâtres en pierre du monde romain. En 55 avant Jésus-Christ, Pompée inaugura à Rome le premier théâtre de pierre permanent. Quelques années plus tard, Auguste ordonna la construction de celui d'Arolate, nom antique d'Arles. Commencé aux environs des années 40-30 avant Jésus-Christ, il fut achevé vers 12 avant Jésus-Christ. L'empereur sut très bien ce qu'il pouvait tirer d'un lieu qui permettait de réunir dans la Kaweia l'ensemble d'une communauté focalisant son attention sur sa statue impériale haute de 3 mètres placée dans la niche centrale du mur de Seine. En forme d'hémicycle, il pouvait en effet accueillir plus de 10 000 spectateurs assis sur 33 gradins en fonction de leur classe sociale. Les gens de conditions modestes placés au-dessus, les chevaliers et les notables au gradin inférieur et l'orchestra pour l'élite. La scène Scaena était constitué d'une plateforme en bois de 50 mètres de long sur 6 mètres de large et abritait tout ce qu'il fallait pour créer les effets spéciaux nécessaires au spectacle. La machina permet de créer les premiers effets spéciaux et donne l'illusion de voir descendre du ciel des dieux. Les scalae orchinae, les trappes, permettent aux fantômes d'apparaître et de disparaître facilement. Devinette, que demandait le dernier acteur sur scène ? Le dernier acteur en scène, à la fin d'une représentation, demandait aux spectateurs d'applaudir. Plaudite. Mais ce vœu était loin d'être toujours exaucé.
Le théâtre et les genres théâtraux. Après deux longues années marquées par une épidémie de peste, on considéra cette période néfaste comme un signe divin. On décida d'instaurer des jeux exceptionnels, les ludi scaenici, des jeux scéniques pour apaiser la colère des dieux. Pour ces jeux théâtraux, les Grecs ont inspiré les Romains sur deux grands types de pièces, la comédie du grec Commedia et la tragédie du grec Tragodia, lui-même dérivé de Tragodos, qui chante pendant l'immolation du bouc aux fêtes de Bacchus. À Rome, les Palliatae de Pallium, le manteau grec, ont emprunté en effet leurs intrigues à la période républicaine. Ce sont des tragédies du genre le plus populaire dans les théâtres de bois élevés sur le forum. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, Les Pagliatae sont malgré tout délaissés et les spectateurs se tournent alors vers les Togatae, du mot « toge », des comédies latines mettant en scène la petite société romaine. Une nouvelle forme de tragédie latine, appelée « praetextae », de prétexte, la toge des magistrats romains, repose non plus sur les récits mythologiques, mais sur les hauts faits de l'histoire romaine. Comme les tragédies, les comédies apparaissent comme de vraies répliques de pièces grecques. Désignées également « palliatae » et s'articulant autour d'intrigues amoureuses codifiées, elles mettent en avant la satire et la farce chères aux Romains. À la fin de la République, comédie et tragédie disparurent progressivement pour laisser place au mime et à la pantomime. Le mime était à l'origine une représentation plutôt dramatique des scènes de la vie quotidienne, jouée par des acteurs pieds nus, sans masque ni costume particulier. C'était le seul spectacle où les femmes pouvaient se produire. L'essentiel du jeu d'acteur reposait sur la gesticulation et la danse. La pantomime issue de la tragédie était une sorte de ballet tragique, avec masque et costume où un interprète unique mimait une histoire sans parole. Au théâtre antique d'Arles, seul le mime et la pantomime étaient joués sur scène. Devinette, quelle est l'étymologie du mot théâtre ? Le mot grec « théatron » qui signifie « lieu d'où l'on regarde théâtre » est formé à partir de « théa » et du suffixe « tron » qui désigne un lieu. « Théatron » désigne donc d'abord le public, le lieu d'où on peut voir ce qui se passe sur scène avant de désigner également la scène.
Le cirque, le monument. Le cirque d'Arélate a été édifié en 149 après Jésus-Christ. Il fut construit sur un sol argileux. Pour stabiliser cette grande construction, 30 000 pieux de bois de long de 2 à 3,50 m furent plantés dans ses soubassements ainsi solidifiés. Le plus vaste monument romain mesurait 450 mètres de long et 101 mètres de large et fut donc construit à l'extérieur de la cité. Il comportait des gradins, des cavea pouvant accueillir 20 000 spectateurs. Une vaste aire damée, l'aréna, était séparée par la spina, une longue séparation centrale. Cette dernière était décorée de sculptures et de bassins, se terminant à ses deux extrémités par des bornes ou métaé que les concurrents s'efforçaient de contourner au plus près sur plusieurs tours. La piste était entourée par un mur, le podium suffisamment haut pour protéger les spectateurs. Les gradins reposaient sur une structure architecturale modulaire de chambres fermées par des voûtes rampantes, assez proches de celles d'un amphithéâtre. Les carcérès sont des boxes de départ. Au nombre de 12, elles logeaient un attelage et un garçon d'écurie chargé de tenir les guides jusqu'à l'ouverture des portes. Aujourd'hui, seules demeurent visibles en contrebas du musée des restes de la substruction de la cavea, gradin, de l'extérieur de la spendonée, partie arrondie du cirque. Devinette, comment étaient représentées les 4 équipes concurrentes ? Chacune de ces 4 équipes était représentée par 3 emblèmes, un élément, eau, feu, etc., un dieu et une saison.
Les acrobates et les attelages. Les origes étrusques et romains portaient le plus souvent un casque de cuir, des jambières et une courte tunique qui arrive à mi-cuisse. Celle-ci avait une lanière de cuir au niveau de la poitrine pour protéger les côtes. Pour diriger les chevaux, les cochers enroulaient les rênes autour de leur poitrine, ce qui assurait une prise plus efficace, mais pouvait se révéler extrêmement dangereux en cas d'accident ou de naufrage. Les chars étaient tirés par 2 chevaux, étaient appelés biges par 3 triges et par 4 quadriges. Dans les courses à 4 chevaux, le meilleur cheval était situé à gauche et le plus rapide à droite. Le modèle du trige, appelé à 3 chevaux, 2 chevaux timoniers et un cheval extérieur provenaient d'Étrurie. Quadrigae et Desultores, quadrige et voltigeur, tel est le doublé traditionnel du cirque romain. 1 à 2 chevaux non montés faisaient également partie de la composante obligatoire du cirque romain. Il y avait 2 variantes de ce type de spectacle. L'une se déroulait avec un seul cheval, sur lequel le cavalier va faire des acrobaties en sautant à terre pour ensuite finir la course à pied, les cusores. L'autre se passe avec 2 chevaux et dans ce cas, le voltigeur va passer de l'un à l'autre en faisant des figures, les desultores. Que veut dire acrobate ? En grec ancien, acrobates, qui marche sur la pointe des pieds, composé de akros, au plus haut à l'extrémité, et de baino, marcher. Étymologiquement, l'acrobate est celui qui se déplace sur les extrémités, une manière de jouer avec son corps, de s'amuser des contraintes de la gravité, de produire un effet de surprise et de susciter l'admiration.
Les spectateurs au cirque romain. Contrairement au combat de gladiateurs, par exemple, où les femmes étaient reléguées dans la partie haute des gradins depuis l'époque augustéenne, au cirque, les hommes et les femmes étaient autorisés à s'asseoir les uns à côté des autres. Cette proximité attisa déjà le spectacle. Imaginons l'attente fébrile des pareilleurs, les sponsors qui voyaient, ou parfois seulement apercevaient, les chars lancés à pleine vitesse, zigzaguer et se déplacer sur la piste, contourner toutes les 60 secondes environ les bornes, les métailles. Le compte des tours s'effectuait avec l'ovarium. On décroche successivement 7 œufs en bois, suspendus au-dessus de l'arène. À chaque œuf retourné, la foule retenait son souffle. Or, durant ces 15 minutes, chaque attelage contournait 14 fois les bornes, soit une fois toutes les minutes. L'issue de la compétition demeurait donc imprévisible jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée. Les spectateurs pareillaient, car le contournement des bornes à chaque extrémité de cette barrière constituait l'étape la plus délicate pour les cochers. Ils risquaient à chaque fois de se renverser avec leur char dans le virage. De nombreux témoignages littéraires évoquent les hurlements des spectateurs qui encouragent leurs cochers favoris ou expriment par ce biais des émotions fortes, stupeur, colère ou angoisse. Devinette. Que veut dire « panem et circenses » ? Littéralement, « du pain et des jeux au cirque », traduit plus régulièrement par « du pain et des jeux ». C'est une expression latine forgée dans la Rome antique pour critiquer les moyens de séduction du peuple romain.
Les jeux privés et leur tous. Les praticiens romains dans leur villa de campagne pratiquaient au jardin l'otium, le loisir dans leur jardin clos. Le jardin romain constitue aussi par l'association de l'animal, du végétal, du minéral et de l'eau, un équilibre vivant propice au loisir. Cet espace privé et loin des regards devient naturellement une aire de jeu liée au jeu privé. Ainsi, le jardin public Hortus, inauguré en 2010 et côtoyant les vestiges antiques du cirque romain et le musée, se veut autant un espace de jeu et de fête qu'un lieu de découverte du monde romain. Formé d'espaces thématiques, il est un trait d'union entre le centre ancien d'Arles et le musée, qu'il prolonge de façon originale. Cette fiction végétale de plus de 6000 m² est une invitation à découvrir la civilisation romaine selon un point de vue et des aménagements contemporains. L'Hortus est en effet inspiré d'un texte de Pline le Jeune, écrit il y a 2000 ans, qui détaille un jardin reprenant la forme d'un hippodrome. Situé justement à proximité des vestiges du cirque romain, l'Hortus est à la fois une allusion au texte et une manière de rappeler la présence de ce vaste édifice disparu depuis la fin de l'Antiquité. Devinette, qu'est-ce qu'un hippodrome ? Réponse, c'est un monument dédié aux courses de chars, également appelé cirque.
Des règles du jeu ou pas ? En extérieur, de nombreux jeux étaient pratiqués par les Romains. L'aspartum est un jeu de balles qu'ils ont inventé. L'étymologie grecque du terme aspartum signifie l'interception rapide d'arpazène, arraché. Il n'y avait pas forcément de règles pour jouer à ce sport. Il fallait juste être très physique et très endurant parce que le but du jeu était de se faire des passes avec la pila, le ballon, et de franchir une zone pour pouvoir marquer 4 points. Ensuite, une personne de l'équipe interceptant un tir devait prendre le ballon et le tirer le plus loin possible pour relancer le jeu. Pour stopper l'équipe qui possédait le ballon, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. L'affrontement ne durait que 60 minutes à cause du jeu très physique et épuisant. Ce jeu était très intense. Il y avait des blessés gravement touchés et de nombreuses séquelles. Ce jeu pourrait être l'ancêtre du rugby moderne. Devinette, les jeux de balle avaient-ils un lieu dédié ? Réponse, étant donné que ces jeux étaient très populaires et très appréciés, des terrains étaient aussi spécialement aménagés pour pouvoir s'y exercer.
Les jeux de société dans l'Ortus. À Arles, le parcours de vie de l'Ortus alterne des lieux de découverte thématiques, des zones de détente et de repos, et des espaces de jeux basés sur des modèles antiques. Le visiteur est invité à jouer selon les règles romaines et à rivaliser de stratégie et d'habileté aux échecs, jeux de balle, marelles ou osselets. Les Romains de l'Antiquité jouaient à une grande variété de jeux de société, dont les dés Tesserae, les osselets Tali ou Tropa, les échecs romains Latrun Culi, les dames romaines Calculi, les morpions Terni Lapilli et le bagamon romain Tabula. Pendant leurs exercices, les Romains participaient également à diverses activités sportives impliquant des ballons, notamment des sortes de handball, de football, de hockey sur gazon, les jeux de capture et peut-être même la balle aux prisonniers. Ces activités se déroulaient généralement dans le Palaestra ou Sphaerista, terrain de jeux de balle. Devinette, dans quel lieu les Romains pratiquaient-ils les jeux de table ? Réponse. Les jeux de table offraient sans aucun doute un moment de détente privilégié en famille ou entre amis sur le forum ou dans l'atrium ou dans l'ortus de la domus.
Les jeux d'argent et les pièces. L'atelier monétaire d'Ostie, transféré à Arles suivant la volonté de Constantin en 313, a frappé monnaie pour une grande partie des empereurs jusqu'à la fin de l'Empire en 476. 1084 pièces conservées au musée d'Arles antique sont présentées. Le nombre important des pièces intactes montre l'importance de ce matériau pour le commerce, mais aussi pour les jeux d'argent. Parmi les jeux les plus prisés, les dés occupent une place de choix. Aussi, c'est Palamède, un héros grec, qui aurait inventé le dé et les jeux de plateau tels que nous les connaissons durant la guerre de Troie. Une façon de distraire et de garder unis ses compagnons de bataille en attendant la reprise des combats. Les dés sont un jeu d'argent pour les adultes, des jeux d'argent assez mal vus car cela dégénérait souvent en disputes ou bagarres. D'ailleurs, à Rome, entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, la République avait interdit ces jeux pour éviter le désordre dans la cité. Réalisés en os, plus rarement en ivoire, en bronze, en bois ou en schiste, ces dés sont en tout point semblables aux nôtres. Les joueurs lançaient leurs dés à la main, mais afin d'empêcher toute tricherie, on recourait à des gobelets, des cornets ou des tours. Nous ignorons les règles précises du jeu de dés à l'époque gallo-romaine, mais on peut supposer qu'on les définissait avant chaque partie. Le vainqueur pouvait être tantôt celui qui totalisait le plus grand nombre de points, tantôt celui qui réussissait certaines combinaisons. À Rome, la législation romaine ne laisse aucune chance aux joueurs de jeux de hasard. Elle les prive du droit de se pourvoir en justice. Cela est considéré comme un délit. Devinette, quel empereur a joué à un jeu qu'il a lui-même interdit ? Réponse. L'empereur Auguste, en dépit de l'interdiction qu'il avait lui-même édictée, n'hésitait pas à se déguiser en mendiant pour aller assouvir sa passion des dés.
Les jeux de hasard, des jeux souvent liés à la monnaie mais aussi à la ruse. Les adultes, durant l'Antiquité, tentaient de gagner par la ruse, la tricherie mais aussi le mensonge. Les enfants romains faisaient de même et jouaient aussi aux osselets, talus et aux dés tout en trichant. Les deux jeux à damier les plus populaires dans Rome étaient les petits voleurs, qui ressemblaient à nos échecs, et les douze lignes, quelque chose comme le tric-trac. On pariait aussi sur le pair et l'impair, on jouait à pile ou face, un jeu que les Romains nommaient navia aut capita, c'est-à-dire tête ou bateau. Parce que leurs pièces de monnaie portaient d'un côté la tête de Janus et de l'autre un navire. On trichait beaucoup au jeu, entre autres au jeu de l'amour, par exemple, que l'on trouve encore aujourd'hui en Corse. Deux joueurs se font face, main droite fermée, au signal, ils désignent chacun un nombre compris entre 1 et 5, avec leurs doigts brutalement tendus. Chacun doit deviner le total de ses doigts et de ceux de son compagnon. Devinette. Pourquoi beaucoup de jeux privés n'avaient pas de support ? Car les jeux avec les mains et les doigts étaient très courants et faciles à faire partout.
Le mythe d'Orphée. Eurydice, la femme d'Orphée, mordue par un serpent, lui est enlevée le jour même de ses noces. Orphée est donc d'emblée un amoureux malheureux et un héros tragique, veuf à peine marié. Il chante alors pour persuader les souverains des enfers et de laisser repartir Eurydice. Son chant est plus envoûtant que celui des sirènes. Il charme les hommes, les animaux, les arbres, les rochers, les dieux et les monstres. Les oiseaux volent en bande au-dessus de sa tête. Les fauves s'apprivoisent et même les poissons sortent de l'eau pour l'écouter. Descendu aux enfers, il réussira, grâce à son chant, à apaiser Cerbère, à cesser les supplices perpétuels des condamnés et à émouvoir Hadès. Hadès n'y mit qu'une seule condition. Orphée ne devait pas se retourner jusqu'à ce que Eurydice soit revenue sous la lumière du soleil. Eurydice suivait Orphée dans le sombre passage, guidé par la musique de sa lyre. Se méfiant un peu des promesses d'Hadès, il se retourna pour voir son épouse, était toujours derrière lui. Une fois retourné, il la perdit pour toujours. Ensuite, les Bacchantes se vengent d'avoir été dédaignées par l'époux éploré. Restés fidèles à Eurydice par-delà la mort, leur vengeance lui sera fatale. Devinette, quels autres héros sont descendus aux enfers ? Réponse : Ulysse, Héraclès, Thésée et Énée sont descendus eux aussi aux enfers, mais en sont revenus.
La vie et la mort dans les jeux. Les inscriptions honorifiques et funéraires des conducteurs de chars marquent leur succès et fournissent des détails et des informations précieuses sur leur vie. Florus était un auriga, un conducteur de rang inférieur et moins expérimenté. Son inscription funéraire est la suivante. « Moi, Florus, je gis ici, enfant conducteur d'un char à deux chevaux qui, alors que je voulais faire courir mon char trop rapidement, tomba trop vite dans les ombres. » De même que pour celle de la violence, la définition du jeu ne va pas de soi. Il serait intéressant de comprendre pourquoi la brillante civilisation romaine pouvait contribuer à des jeux publics de façon officielle, en favorisant de tels risques fatals pour un orige inexpérimenté, de tels combats mortels pour le gladiateur courageux, afin de satisfaire un public encore plus assoiffé de spectacles sanglants. L'univers du jeu touche donc la vie et la mort de chaque citoyen romain pour qu'il puisse se préparer aux aléas de la vie. Devinette. Que signifie « alea iacta est » ? « Alea iacta est » est une expression directement reprise du latin, et plus exactement de Jules César, dont la traduction en français est « le sort en est jeté » ou, de façon plus imagée, « les dés sont jetés ».